Tiens, celle-ci. Celle-ci, bien sûr, c'est une Les Paul Custom à 3 micros. Et ça, c'est mon adaptateur radio. J'accroche ça à la sangle, là, en bas. Tu vois, comme ça, là. Et quand je suis sur scène, ouais, c'est une sans guitare fil. Sans fil. Et je peux jouer sans me faire chier avec tout le bordel.
De courir n'importe où sur la scène avec ça.
Écoute ça.
Ah, j'entends rien.
Ouais, mais t'entendrais si j'en jouais.
Welcome to Plug and Play.
Ça, c'est un ampli, hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien, là. Hein, tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro de Plug and Play du mois de décembre 2019, une coproduction entre le Tangram et Principe Actif. Cette semaine, ce mois-ci, pardon, c'est avec Christelle et Raphaël. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, aujourd'hui, dans cette émission consacrée aux musiques actuelles de manière très large, nous aurons l'occasion de rencontrer Arnaud Fournet. Christelle.
Oui, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Tu passes donc l'émission avec nous. Alors Arnaud, il est luthier à Évreux, voilà. Donc on va passer un bout de cette émission à discuter de son métier et de musique en même temps.
Bah tant qu'à faire, hein. On va pas se gêner non plus. Et nous parcourons également le programme du Cube, notamment,
oui.
Mais en musique, parce qu'on aime bien la musique quand même.
Voilà, on va vous annoncer l'agenda concert. Donc on reprendra les concerts à partir de janvier maintenant. Hein, donc,
c'est ça, il y a la trêve de
fin
décembre.
Il y a la trêve hivernale, ouais, voilà, c'est ça. Donc prochain concert en janvier, on va vous raconter tout ça en musique. On vous annonce les titres et on en écoute un morceau à chaque fois.
Et voilà. C'est une très riche idée. En quelques mots, Christelle, est-ce que tu peux du coup nous présenter Arnaud avant que nous partions en musique?
Tout à fait. Alors Arnaud est avec nous. Donc son métier, c'est d'être luthier à Évreux. Alors vous êtes deux?
Oui.
C'est ça?
Oui, vous êtes deux luthiers.
Deux luthiers,
oui.
Donc c'est quand même un métier qui n'est pas très commun, qui est en rapport à la musique, avec la musique. Donc on s'est dit, tiens, on va en parler aujourd'hui, on va détailler tout ça, tu nous expliqueras en quoi ça consiste d'être luthier, sur quel instrument tu travailles, comment...
J'imagine que quand on est luthier, on aime la musique, on n'aime pas que le travail de l'instrument, j'imagine qu'on aime la musique également.
Bah disons qu'on vient de la musique, hein. On vient de la musique et on y retourne tout le temps.
je propose qu'on te découvre en musique avec un tout premier extrait musical que tu nous as choisi, histoire de planter un peu le décor. En quelques mots, peut-être nous dire quelques mots sur ce que nous allons écouter de ton choix.
Alors, on va écouter un groupe de Portland, donc aux États-Unis. C'est un groupe qui s'est créé au début des années 2000, un petit peu influencé par Morrissey, Siouxsie and the Banshees, qui s'appelle les Decemberists. Et là, on écoute un titre de 2005 qui est... Ellie the Barrel Boy.
Eli the Barrel Boy of the old town sells coal and marigolds and he cries out all down the day. The tamarack, she is crying. Corn cobs and candle wax for the buying all down the day. Would I could afford to buy my love a fine robe made of gold and silk. Push my barrel all the day. And I must push my barrel all the day. barrel boy when they found him, dressed all in corduroy, he had drowned in the river down the way. They laid his body down in a churchyard, but still when the moon is out with his push cart, he calls down the day. Would I could afford to buy my love a fine gown, made of gold and silk, Arabian thread. But I am dead, lying in a church ground, still I push my barrow all the day, still I push my barrow all the day.
Ce morceau, en fait, il nous mettait aussi dans la sérénité, là. Vous voyez, on met un petit bout de temps à redémarrer. On discute aussi hors antenne, et je trouve qu'il posait un décor relativement calme. Arnaud Fournet, donc nous disions et nous t'avons présenté comme luthier. En quelques mots, en quoi consiste ce métier de luthier et qu'est-ce que ça englobe, la lutherie?
Alors, la lutherie, bah, étymologiquement, on parle du luth. Donc, ça nous ramène beaucoup aux instruments de musique. Et moi, je suis spécialisé dans les instruments de musique à cordes. Donc, aussi bien les instruments du quatuor, violon, violoncelle, contrebasse, viol de gamme, que les instruments à cordes plus courants, que sont les guitares, les banjos, les mandolines, les choses comme ça, qu'on rencontre beaucoup. Voilà.
Sur, justement, la lutherie, c'est pour les instruments à cordes en particulier.
Alors, par extension, on parle de lutherie aussi pour les instruments à vent, mais c'est vraiment par extension.
Mais c'est un autre métier, pour le coup.
C'est un autre métier, voilà. C'est vraiment pas le même travail, ce sont pas les mêmes instruments, que ce soit les cuivres, les bois, ou les instruments à vent et les instruments à cordes. Après, il y a la facture instrumentale pour le piano, clavecin, épinette et orgue. Voilà, ça c'est tous les domaines de la facture instrumentale.
Quand on parle de lutherie, c'est quoi? C'est de la fabrication, de la création, de la rénovation, de l'entretien, ou un petit peu de tout ça? Et comment au quotidien ça
C'est un petit peu ça tout ça. C'est un petit peu tout ça. C'est, à la base, ce sont des notions de création. Et c'est beaucoup d'entretien, de réparation, de remise en état d'instruments de musique à cordes.
Et alors, c'est quoi? Tous les instruments, au bout d'un moment, passent par les ateliers du luthier. Comment ça se passe? Ça fait partie du parcours normal, ou c'est suite à un incident, ou je sais pas moi, un instrument qui aurait une centaine d'années, là on se dit, bon, il faut un peu le rénover.
Et ben c'est tout ça.
Tout ça, tous les instruments doivent passer. C'est plutôt pas mal qu'ils passent au bout d'un moment.
Alors, tous les instruments passent chez un luthier. Voilà, ils commencent chez un luthier, et puis après il y a les révisions. Il y a l'entretien, il y a les réglages, et puis il y a les accidents, évidemment. Oui.
C'est quoi? C'est le côté vivant aussi de l'instrument, parce qu'ils sont en bois, j'imagine, tous ces instruments.
Voilà.
C'est un matériau vivant, le bois. Il y a quelque chose de cet ordre-là?
C'est un matériau qui réagit beaucoup aux écarts de température, qui réagit beaucoup à l'hygrométrie, qui réagit curieusement aussi beaucoup au fait d'être joué ou de ne pas être joué. On s'aperçoit beaucoup de ça avec des violons, puisque le violon étant près de la bouche et du nez, quand on joue, effectivement, il a tendance à emmagasiner une certaine dose d'humidité, d'hygrométrie, la reperdre. Voilà, donc un instrument, c'est un instrument qui reste vivant à partir du moment où il est fait en bois.
Et c'est-à-dire que ça bouge, faut le régler. Enfin, on parle de réglage là, parce que j'imagine que ça doit être très précis un instrument. Enfin, il y a des notions même scientifiques, j'imagine, dans la fabrication et dans la rénovation.
Il y a des notions acoustiques. Après, il y a des notions d'ergonomie dans la création. Et puis, vous avez des instruments qui ont ce qu'on appelle un diapason, une longueur de corde vibrante qui doit être précise pour qu'un instrument soit juste. Donc là, ça nécessite des réglages et des ajustements réguliers. Et puis, un instrument qui va être joué par un musicien, réglé d'une certaine façon, ne sera pas joué de la même façon, ni réglé de la même façon par un autre musicien. Donc voilà.
Comment on fait pour régler un instrument ?
Alors, il y a beaucoup de contrôles. Déjà, le réglage, il est fait avec le client, puisque c'est le client qui a sa façon de jouer, qui a ses habitudes, qui a ses exigences. Donc, il y a des choses qui, de toute façon, que ce soit au niveau de la justesse d'un instrument, alors ça, c'est universel. Par contre, après, avec le client, on étudie son jeu. On l'écoute, on le voit jouer, et on voit un petit peu, on essaye de s'approcher de ses désirs. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que concrètement, tu vas jouer, par exemple, sur une guitare, sur l'inclinaison du bois du manche. Tu vas jouer sur quoi, en fait, pour avoir les réglages que tu souhaites ?
Il y a plein de choses sur un instrument. Il y a la hauteur des cordes. Ouais. Tu dois déterminer la facilité de jeu, difficulté de jeu. Que les cordes soient pas trop près pour pas friser, trop haute, parce qu'il faut savoir qu'une corde, plus elle est haute et plus on l'appuie, plus le diapason évolue et on a toutes les chances d'être faux. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Il y a aussi des paramètres acoustiques. Un violon, donc violon, violoncelle, contrebasse, etc. Ce qu'on appelle un intérieur qui relie la table d'harmonie avec le dos, une âme. On appelle ça l'âme, et très justement, c'est l'âme de l'instrument en fonction de l'endroit où elle est placée. Elle va privilégier la projection, les basses, les médiums, les aigus, etc. Donc ça, ce sont des réglages.
Donc tu as besoin d'outils pour faire un réglage.
Alors il y a plein d'outils, d'outils spécifiques à la lutherie. À la base, ce sont beaucoup les outils qu'on retrouve dans l'ébénisterie. Ce sont des outils tranchants pour scier, etc. Mm-hmm. Et puis c'est un métier où on se fabrique beaucoup d'outils adaptés à chaque instrument pour pouvoir aller travailler à l'intérieur. On travaille quelquefois même avec des petites caméras pour aller regarder à l'intérieur des instruments de musique. Donc c'est plein d'outils qu'on fabrique soi-même, en fait.
Régler un instrument, ça s'adresse à déjà des musiciens très chevronnés, ou finalement le réglage d'un instrument, cette personnalisation un petit peu de jeu et tout, peut aussi très bien convenir à un débutant, ou en tout cas un joueur modeste, on va dire.
Alors le joueur modeste, en fait, il n'y a pas de joueur modeste, mais c'est vrai que quand on a un instrument dans les mains, moi, il m'arrive souvent avec les clients de leur apprendre à monter leurs cordes correctement pour ne pas avoir de phénomène de désaccord récurrent, leur apprendre à contrôler aussi la courbure de leurs manches, surtout sur une guitare, pour être capable de savoir si oui ou non il y a besoin d'un réglage, si quelquefois ils sont capables de le faire eux-mêmes. Il faut se méfier quand même de certaines interventions sur les vis qu'on trouve dans les manches de certains instruments. C'est quand même des éléments très fragiles. Donc souvent, oui, je leur apprends à contrôler leur instrument pour savoir s'il va bien. S'il va bien, s'il a besoin de passer chez le luthier ou s'il est parfaitement jouable.
C'est rigolo, j'entends un petit peu comme si, au bout d'un moment, on vérifiait si on n'est pas le nez qui coule ou autre chose pour savoir si on va se soigner ou pas. Enfin, il y a un petit côté très vivant, en fait.
C'est vivant et préventif.
Dans ce que tu dis, en tout cas, il y a quelque chose de très très vivant, quoi. C'est vérifier, bien l'avoir en main.
Mais je pars vraiment du principe que le réglage, voire même la fabrication d'un instrument aujourd'hui, le réglage, l'entretien, c'est une chose qui se fait vraiment, c'est tripartite. Vous avez l'instrument, le luthier et le musicien.
Oui, ça peut pas se faire sans un des parties.
Moi, je ne fais pas le réglage sans le musicien. C'est-à-dire que le client va venir rechercher son instrument réglé, il va prendre un quart d'heure et il va regarder. Il va la jouer ou jouer son instrument. Et si on doit peaufiner le réglage, on le peaufine ensemble. Et je lui dis toujours, si dans 15 jours, vous devez repasser, parce qu'après l'avoir essayé dans des conditions de concert ou de répétition, vous apercevez qu'il y a des choses qui sont qui vous perturbent, vous repassez et on reprend le réglage.
Oui, puis il y a une notion de temps aussi. Tu l'expliquais au début, que l'instrument est vivant, notamment par la matière. J'imagine que un réglage peut avoir des incidences. Enfin, là, tu parlais par exemple du réglage du manche tout à l'heure, avec notamment des clés qui se trouvent à l'intérieur. Finalement, il peut, en réglant le manche, avoir une incidence sur beaucoup d'autres choses que juste le manche.
Ah bah bien sûr, quand vous réglez un manche qui est très creux, que vous avez les cordes très hautes, le fait de retendre le manche, les cordes vont se rapprocher du manche. Et là, on peut découvrir des frises. Et si le client ou le musicien a pris l'habitude de jouer avec des cordes très hautes, quand vous lui rendez un instrument avec des cordes normalement réglées, c'est perturbant. Donc, il y a beaucoup de pédagogie aussi.
Et là, ce que tu expliques, c'est valable pour n'importe quel instrument.
N'importe quel instrument. N'importe quel instrument.
Autant un violon qu'une guitare.
Un instrument, voilà. C'est exactement la même chose. C'est beaucoup, beaucoup de pédagogie. Souvent, il y a des musiciens qui attendent très longtemps avant de comprendre qu'en fait, un réglage peut permettre d'optimiser et leur jeu et l'instrument. Et voilà, c'est beaucoup de pédagogie.
Oui, parce qu'il faut quand même se rendre compte à un moment donné que c'est pas forcément soi-même qui joue, moi qui joue pas bien, c'est peut-être aussi parce que la guitare ou le violon n'est pas forcément super bien réglé par rapport à
Exactement.
Mon habitude de jeu.
Exactement.
C'est ça, parce que quand on achète un instrument, il est réglé de base. Et en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, on doit l'adapter au jeu, à notre doigté, etc. C'est ça.
Oui, oui, oui.
Il y a un travail de personnalisation de l'instrument par rapport à comment chacun joue et c'est différent de chaque personne. Quoi.
C'est exactement ça. Et puis, quand on commence la musique, moi, j'ai pas mal de clients qui sont des jeunes qui commencent la guitare, qui reçoivent des instruments qui ne sont pas très bien réglés. Et il y a toujours le risque, avec un instrument qui devient dur à jouer, de se dégoûter de la musique.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours un passage, notamment quand on achète un instrument neuf par correspondance, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la majorité des ventes. L'idéal, c'est de le faire quand même contrôler par un luthier et de le refaire contrôler quelques mois après, puisque l'instrument va commencer à se placer, à bouger, etc. Voilà, pour que l'instrument, justement, ne soit pas dur à jouer et que ça reste avant tout un plaisir.
C'est peut-être pas forcément un réflexe qu'on a aussi. On a peut-être tendance à considérer que le luthier, c'est plus pour des musiciens professionnels qui jouent vraiment très très régulièrement. Ouais. Et on se dit que moi je vais pas aller chez un luthier
parce que je suis amateur.
Ouais, voilà.
Alors il y a un avantage, c'est quand vous avez de jeunes élèves, enfin jeunes pas forcément par l'âge, mais au moins par l'expérience, qui prennent des cours, vous avez aujourd'hui quand même les profs d'instruments de musique, soit au conservatoire, que ce soit dans les D'accord. écoles de musique, qui se permettent de dire à l'élève, là, il faudrait quand même que ton D'accord. instrument soit réglé parce que je sens que tu peines ou il est faux.
Ouais.
Et dans les cours collectifs, c'est infernal.
J'imagine. Ouais.
Je propose qu'on écoute un deuxième extrait avant de retrouver la troisième partie d'échange. Le deuxième extrait que tu nous proposes, si tu pourrais nous en dire quelques mots.
Alors, ce groupe s'appelle Reverend Horton. C'est un groupe américain, évidemment, de ce qu'on appelle le punkabilly.
Un mélange de punk,
disons que c'est du rockabilly survolté. On avait ça à une époque avec les Meteors, toute cette scène psychobilly. Donc ça c'est un titre de 2013, voilà, qui s'appelle Suiciders. Attention, c'est quand même énergique.
tree.
Discovery Vault, c'est le deuxième choix d'Arnaud Fournet avec donc Luthier, avec qui nous sommes depuis le début de cette émission. Je voulais revenir moi sur une notion qu'on a à peine touché du doigt, mais qui peut sûrement concerner beaucoup de personnes. C'est cette question d'acheter un instrument. Acheter un instrument, c'est quelque chose d'important. Et quand on est débutant, notamment, j'imagine qu'on est perdu dans toutes les possibilités. Tu évoquais les achats en ligne aujourd'hui qui sont très répandus. La difficulté de trouver un magasin de musique, notamment sur Évreux, par exemple. Et puis, cette représentation qu'on évoquait il y a quelques instants autour de, je vais quand même pas aller voir un luthier, je suis débutant. Voilà, donc un petit peu ton regard sur ce premier instrument, sur ce comment choisir son instrument quand on commence.
Ben c'est vrai que l'achat d'un premier instrument, c'est magique, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, on n'a plus la chance, comme tu disais, d'avoir des magasins dans lesquels on peut aller essayer et surtout être conseillé sur un instrument. Du coup, on se reporte beaucoup sur la vente par correspondance et là, attention. Parce que c'est complètement immatériel. Vous recevez un instrument que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas essayé. Je parle beaucoup pour les instruments acoustiques, surtout. C'est pour ça que moi, je me permets toujours de dire aux éventuels clients ou musiciens en herbe de venir me voir ou de m'appeler. Et puis, on essaye d'avoir un rôle de conseil qui n'engage à rien. C'est-à-dire que je leur conseille, souvent, je conseillerai quand même de l'occasion. C'est pour ça que je leur dis, vous allez chiner sur des sites comme Le Bon Coin, vous m'envoyez le lien, et après je vous dis si oui ou non, le rapport qualité-prix est pas mauvais. Là où je privilégie l'occasion, c'est que c'est un instrument qui a déjà vécu, donc qui a besoin généralement d'un réglage, une petite inspection, et qui après est fiable. Contrairement à un instrument neuf qui a voyagé dans des conteneurs, sur la mer, etc., et qui va mettre quelquefois 6 mois avant de se stabiliser. Voilà. Donc, j'ai ce rôle de conseil. Il m'arrive aussi de vendre des instruments d'entrée de gamme qui ont 10, 15, 20 ou 30 ans pour justement des jeunes élèves, pour être sûr qu'ils aient des instruments fiables, au moins pour les rentrées des cours. Voilà. Mais c'est surtout important, le rôle de conseil, que les gens n'hésitent pas, c'est gratuit. On appelle le luthier, on va le voir, on discute. J'ai quelques instruments que je peux leur faire essayer, notamment en matière d'ergonomie, en fonction de l'âge de l'enfant et de sa taille. Et voilà, pouvoir leur conseiller les instruments que j'ai ou que je n'ai pas, mais pouvoir leur conseiller les instruments que je n'ai pas sur certains sites éventuellement.
Puisque tu disais, finalement, là où on pourrait penser que acheter du neuf, ce serait mieux pour la durabilité ou je sais pas, pour être certain que ce soit bien, finalement non, c'est un instrument un peu plus vieux qui finalement sera plutôt gage de stabilité.
C'est un gage de stabilité, oui. Par contre, il y a des instruments neufs qui sont exceptionnels, qui sont très très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le premier producteur d'instruments de musique à cordes, c'est quand même l'Asie, la Chine, qui a fait d'énormes progrès en matière de qualité de lutherie, dépassant même certaines grandes marques américaines connues.
Tu parles de guitare, là, ou pas spécialement?
Je parle de beaucoup de choses.
Comment il vient de se redresser sur sa chaise, Christophe?
Je parle de beaucoup de choses.
Non, mais ça marche sur les violons aussi, ce que tu dis.
Ça marche aussi sur les violons, les violoncelles et les contrebasses. Avant, on avait beaucoup cette production d'instruments cheap ou d'entrée de gamme qui était faite dans les pays de l'Est, notamment l'Allemagne de l'Est, les Meinl et compagnie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ils ont quand même été détrônés en matière de qualité par certains instruments asiatiques, voire chinois.
Et c'est quoi qui se joue essentiellement, là, j'imagine, la qualité du bois dans la qualité d'un instrument, en pourcentage, ça va être quoi? Ça va être
C'est la qualité de fabrication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises de fabrication d'instruments de musique qui sont numérisées. Donc, on a même une qualité, une sélection qui est quand même bien faite. On a des importateurs aujourd'hui qui sélectionnent des instruments chinois, qui les repassent chez les luthiers, qui les remettent en vente après. Donc voilà, ça peut être dire que c'est un gage de qualité, pas uniquement. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'Asie le premier producteur d'instruments de musique à cordes.
En tant que luthier, j'imagine qu'il y a ce contact un peu charnel avec l'instrument. Il y a des kiffs particuliers pour toi, je sais pas, de très vieux instruments à restaurer qui seraient un truc plaisant aussi.
Ah oui.
Il y a des choses quand même qui sont plus plaisantes que d'autres à travailler pour un luthier.
Alors il y a des
presque
choses...
des trucs que tu attendrais qu'on te confie.
Oui, il y a des choses qui sont exceptionnelles, que ce soit notamment dans les instruments du quatuor. Il y a quand même des instruments, des... Là, je suis en train de refaire une vieille viole de gambe et c'est un plaisir énorme. Je travaille aussi sur des instruments, pardon, un petit peu moins courants chez nous, que ce soit des ouds, des saz.
Tu peux nous décrire ce que c'est comme instrument?
Alors, le saz, c'est un instrument méditerranéen avec un très très long manche, qui a une forme un petit peu bombée comme les mandolines napolitaines. Sinon, vous avez le oud syrien, qui est un peu le pendant de notre luth français. Voilà, il y a plein d'instruments. Et puis après, bon, tous les instruments à peau, comme les banjos, les banjolines, les banjolélés. Voilà. Et puis, de temps en temps, de travailler sur quand même de très beaux instruments d'histoire, des instruments de collection magnifiques.
Moi, ça, j'imagine là que c'est le petit plaisir du luthier de se dire oh, là, j'ai un petit instrument qui me fait bien plaisir.
Oui, puis j'essaye d'en récupérer et de m'en garder quelques-uns quand même.
Oui, entre deux.
Et alors, en termes, nous, je te parle en tant que tangramme, scène de musique amplifiée, comment ça marche par rapport à bah, tout ce qui est guitare électrique? Est-ce que on peut venir te voir sur si c'est l'électronique qui a un souci dans la guitare pour les amplis? Est-ce que tu...
Bien sûr. Oui. Donc, j'essaie de tout couvrir. Donc, les guitares électriques, effectivement, c'est l'assemblage de bouts de bois et d'électronique. Mm. Ça veut pas dire que c'est facile à fabriquer. Mais oui, je m'occupe aussi de l'électronique dans les instruments de musique. Même des instruments de musique acoustique et qu'aujourd'hui, on arrive à amplifier. Donc, on pose aussi des kits d'amplification sur certains instruments acoustiques.
Oui, on peut t'amener une guitare.
Bien sûr, on peut m'amener une guitare folk acoustique sur laquelle je vais poser un micro pour pouvoir lui permettre d'être branché et de servir pour la scène. Ouais. Et en parallèle aussi, j'ai aussi ce rôle de conseil sur certains amplis, tout ce qui est sonorisation et ampli. Donc, je travaille en parallèle avec d'autres artisans qui font de la réparation, donc soit d'ampli à transistor ou ampli à lampe.
Oui.
Voilà. Pour essayer de servir le musicien local avec des artisans locaux.
Justement, le métier de luthier est pas très répandu. Enfin, pas très répandu. On sait que ça reste un métier relativement rare. Il y a un réseau des luthiers, je sais pas, dans le coin. Ça bosse ensemble ou pas? Ou comment ça fonctionne un petit peu? Parce qu'on a l'impression que c'est presque par bouche à oreille qu'on découvre où est-ce qu'il y a un luthier.
Alors moi je ne travaille qu'avec le bouche à oreille. Je fais pas du tout de communication. C'est peut-être un tort, mais bon, j'ai du travail. Moi, c'est le client content va en parler, et je trouve ça beaucoup plus rassurant pour le musicien, parce que confier son instrument à un luthier, c'est un peu comme confier ses dents à un dentiste quelque part. Donc on a besoin de confiance, on a besoin d'être orienté. Voilà. Donc moi je ne marche que comme ça. Dire maintenant que les luthiers entre eux communiquent beaucoup, c'est pas le propre de l'artisanat. Il y a toujours cette peur de perdre de la clientèle au profit de l'un, au profit de l'autre. Donc moi, j'ai pas de problème avec les autres luthiers du coin. On fait pas forcément le même boulot. Donc il nous arrive même de nous envoyer des clients. Par contre, je communique beaucoup plus avec des luthiers. Je suis sur un blog avec des luthiers américains. Avec lesquels, donc là, on s'envoie beaucoup de recettes, de conseils et éventuellement des pièces détachées dont on a besoin pour réparer des instruments un peu plus anciens. Voilà.
Oui, parce qu'il y a la technique pure, on pourrait dire, qui pourrait s'apprendre sur les métiers de la lutherie. Puis il y a la pratique, la patte individuelle qui est développée avec l'expérience, j'imagine. Enfin, ça fait partie des métiers de savoir-faire plus que de formation, non?
Alors, c'est des métiers, moi, je ne dénigre pas la formation, pas du tout. Moi, ma formation, c'est d'abord la formation d'ébéniste-marketeur, vernis au tampon, tout ce qui est les incrustations, écailles de tortue, gravures, etc. Et en parallèle, j'ai suivi une formation dans un atelier de lutherie à Bruxelles. Mais Il y a beaucoup de luthiers, en fait. On s'aperçoit que beaucoup de luthiers sont des ébénistes à la base et musiciens. Mais il y a quand même, il faut malgré tout une formation pour travailler le bois. Je pense qu'il faut quand même une formation.
Et alors, du coup, est-ce que c'est un métier aujourd'hui qui a... Est-ce que les dernières années ont été un peu difficiles pour... On a vu, on a parlé tout à l'heure des magasins d'instruments de musique qui ont subi vraiment le contre-coup de la vente sur Internet. Est-ce que toi, tu as senti sur ton métier et sur tes collègues une évolution positive ou négative? Est-ce qu'il y a plus de luthiers qu'avant? Est-ce qu'il y en a moins? Et est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils s'intéressent à ce métier-là? Quel est ton regard, toi, là-dessus?
Ben en fait, le regard, c'est que la musique s'est démocratisée parce que, justement, on parlait de l'Asie tout à l'heure, les prix ont sérieusement baissé pour les instruments de musique avec une qualité qui, au demeurant, n'est pas mauvaise, forcément. Donc, il y a de plus en plus d'instruments de musique, il y a beaucoup de jeunes apprentis musiciens. Et le fait que les instruments de musique, les magasins de musique, pardon, aient fermé, oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait du lien social en même temps. Mmh. Maintenant, le travail avec la vente par correspondance, on en aura toujours. Mmh. C'est la partie humaine, c'est la partie humanisée de la vente. C'est qu'un instrument acheté sur Internet va toujours devoir repasser chez un luthier à un moment ou à un autre parce que le SAV de ces grands vendeurs, ce ne sont pas des luthiers.
Mmh. Donc, tant qu'il y aura des instruments, il y aura du travail pour les luthiers, quoi.
Il y aura du travail.
Mais ça, c'est voilà. Pas annoncé ouais. Sur un site internet quand on achète une.
Non, généralement, sur un site internet, on vous annonce que vous achetez le meilleur rapport qualité-prix.
Ouais. C'est ça.
Mais on vous annonce pas que c'est un instrument vivant. Mmh. Voilà. Ouais.
Donc, il doit y avoir des tas de gens qui ont acheté leur instrument comme ça en ligne, mais qui ne savent pas.
Qui ne savent pas que quand il arrive, l'instrument, au demeurant, ne peut pas être réglé.
Ouais.
Un instrument, il est approché dans ses réglages pour dire d'être vendable, mais 15 jours après, tout a bougé. Donc, voilà, ça, c'est pas dit, mais il faut savoir que quand vous achetez un instrument de musique par correspondance, il passe chez le luthier une première fois, et il repasse chez le luthier une deuxième fois quelques mois après. Tout ça, c'est un coût. Un coût qui peut augmenter le prix de l'instrument, pas loin d'un, voire un peu plus de 100 € pour avoir un instrument jouable. C'est pour ça que je privilégie toujours, déjà, ne serait-ce que parce que je trouve que l'obsolescence n'est pas programmée en instrument de musique, et pas programmable, ouais. Heureusement. Ouais. Donc je dis toujours aux gens, allez acheter de l'occasion, on essaye de l'occasion. Moi j'ai mon rôle de conseil, je peux des fois me déplacer ou appeler le vendeur pour avoir plus de précision. Mais je trouve que refaire vivre un instrument qui a déjà un passé, qui est quelquefois un passif, mais là on repasse derrière, c'est plus dans mon éthique.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup à Arnaud pour ces échanges. Sur la partie échange vraiment avec toi, nous allons conclure avec le dernier morceau que tu nous as ramené. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors c'est pour un guitariste, c'est un peu exceptionnel, mais là je vous parle d'un groupe américain qui s'appelle Morphine, qui a été créé en 89 par Sandman, qui avait un groupe avant qui s'appelait Treater Wright, qui était un groupe de blues. Et ce chanteur est mort à Rome lors d'un concert en crise cardiaque en juillet 99. Et curieusement, ce groupe est composé d'une basse à deux cordes, jouée en slide, d'un sax baryton et d'un batteur. Et là, on va passer un morceau de 1997 qui s'appelle Wishing Well.
I gotta call back home to wish you. shoot. I don't even have to aim. I just smile, deal me in. I got 1 million, 2 million, I can't remember how many millions. Millions, I'll tell ya, I'm exactly where I wanna be right now.
Ben voilà, j'en perds le fil. C'était Morphine. C'était le troisième morceau choisi par notre invité luthier Arnaud Fournet. Merci pour ces trois extraits. Et nous passons à la partie qu'on pourrait appeler programmation, agenda non exhaustif. Alors, qu'allons-nous retrouver sur les prochaines dates, et notamment les dates du Cube?
Oui, alors les prochaines dates, ça va être en janvier maintenant, parce que là, c'est les vacances, hein, dans quelques jours, donc pas de concert au Cube pour les jours à venir. On reprend le vendredi 10 janvier, voilà, avec Calgary, qu'on entend derrière, ça, voilà, folk. Duo, trio, folk avec un mélange d'électronique. Ils se sont collé l'étiquette de Folktronica. Voilà. C'est du local. C'est Arthur qui chante et c'est Pierre qui fait de la guitare et du clavier. Et ce sera avec Vidéo Club. Je vous laisse écouter un peu. Looking for a new time in another Rio.
C'était Calgary qui fait la première partie de Vidéo Club.
Vidéo Club, voilà. Un jeune duo de pop électro qui cartonne en ce moment.
Voilà, un petit couple ado, voilà, en début de carrière, mais très très prometteur. Ils avaient malheureusement reporté leur concert qui était prévu à l'automne. Donc ce sera le 10 janvier. C'est un groupe qui est très présent sur les réseaux sociaux, hein, dans la nouvelle mouvance de groupes de YouTubers sur Instagram et voilà.
ne s'évapore.
Tout est sur le web pour Vidéoclub.
Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'aube ou dans l'ombre, rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur écarlate. Tu n'es que le point fixe de mes songes disparates. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui cornuent, je vois des gens qui me sourient, mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux sous la pluie. Et je reste l'esprit de tes lointains souvenirs, dans mes songes ensevelis, tes larmes, tes rires. Tu es ma femme iconique, tu es mon rubis saphir, je suis ta rose lyrique, je suis ces gens qui t'admirent.
Dans la neige, elle est.
Et c'est Vidéoclub avec Calgary, vendredi 10 janvier au Cube, c'est à 20h. Dans la suite de l'agenda, on va vous parler d'un spectacle plutôt de danse, mais en lien avec la musique, puisque voilà, c'est inspiré de la musique de Gainsbourg.
Je suis l'homme de chou.
Chanté par Bachung.
C'était classe, au moment où t'allais dire le titre, ils le disent.
Bien joué.
Ah, parce qu'on les prépare, ces émissions.
Alors, c'est un spectacle de danse par le chorégraphe Jean-Claude Galota qui avait créé ce spectacle déjà en 2009. Donc là, c'est la recréation autour de cette figure de l'homme à tête de chou, de l'histoire de Marie-Lou. Tout ça mis en tableau par 12 danseurs. Donc, pour tous les amoureux de Gainsbourg et de Bachung, c'est un des spectacles quand même à voir. Il avait été présenté au Printemps de Bourges, je crois, l'année dernière, pour sa recréation.
Alors là, il faut laisser couler un petit peu. C'est des choses qui s'appréhendent différemment.
Solitaire et affamé, les anneaux de Saturne sont beaux, et je cours parmi les oiseaux nus, poursuivi par les loups. Solitaire et affamé, sous des éclats d'astéroïdes, et j'entends la musique céleste me susurrer des mots d'amour. Et mon amour, d'amour, oh, 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 oh. Les anneaux de Saturne sont beaux.
Alors il s'agit de Chassol. Je sais pas si Arnaud, notre invité, tu connais Chassol.
Non.
Est-ce que tu connais l'Ultrascore? Parce que c'est l'inventeur de l'Ultrascore. Ça te dit rien? Alors Chassol, donc c'est un musicien multi-instrumentiste, je crois d'ailleurs. Enfin voilà. Enfin.
Surtout sur le clavier.
Voilà, très 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 clavier et. Il part d'un principe, c'est-à-dire qu'il va utiliser plein d'images, plutôt issues de documentaires de la vie quotidienne, qui va récupérer les sons, il va les harmoniser pour créer des musiques en fait. Donc c'est-à-dire que sur scène, donc il est avec un autre, avec un batteur, lui il est plutôt au clavier, et donc il y a de la vidéo derrière, et la vidéo joue en live avec la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il va reprendre plein de sons différents. On est vraiment sur presque la création radiophonique. Hein. D'ailleurs, on n'est pas très loin. Je pense que tu dois aimer aussi pour ça.
Énormément. Ouais. Oui, bien sûr.
Donc c'est on est dans l'univers du jazz, de la fusion. Il y a beaucoup de groove. Musicalement, c'est quand même de très bon niveau. Et surtout, voilà, c'est assez marrant qu'il joue avec tout ça. Et là, son nouveau spectacle, c'est sur la thématique du jeu. Il était venu déjà à Évreux.
C'était plus, un an.
Voilà. Donc c'est quand même un des seuls artistes d'ailleurs à faire ça.
Oui, c'est lui qui a inventé le concept en fait. Ouais.
Et donc c'est vraiment un format inédit à voir.
Quand il était venu il y a un an, c'était un spectacle sur le thème plutôt du voyage, voilà, de films. C'était plutôt sur les îles. Hein,
exactement.
Voilà.
Ouais.
Et là, son spectacle qu'il va nous présenter en janvier, c'est sur le thème du jeu. Le spectacle s'appelle Ludie, donc le jeu dans le sens large du terme, le jeu à la musique, le jeu en comédie théâtrale. Il a capter plein d'images là-dessus et voilà, va faire ses petits montages.
C'est autant écouter qu'à voir. C'est pas un ciné-concert, c'est pas un concert, c'est vraiment hyper hybride, mais c'est vraiment à ne pas rater.
Et ça fait partie des spectacles dont on ne sort pas indemne, et ça, c'est plutôt une bonne chose.
C'est
exactement.
On rappelle la date.
Vendredi 24 janvier au Cube à 20h. 20h, c'est le début du spectacle. Voilà. On a sauté une date entre deux parce que la veille, on a également un concert le jeudi 23. Rien à voir, du rock, Lizzie Strata qui aurait dû passer il y a quelques jours mais avait besoin d'une petite pause. Donc on les retrouve là pour de vrai, Lizzie Strata le 23 janvier avec en première partie...
Ah, je suis en train de retrouver le nom, c'était Lift. Ouais,
Lift.
Voilà, si vous avez suivi la programmation Les Trans Musicales de Rennes qui a eu lieu je crois le week-end dernier, c'était un des groupes à suivre.
Voilà, on en voit juste un tout petit extrait pour illustrer, parce qu'on les a déjà diffusés.
Voilà.
Peut-être même plusieurs fois,
voilà.
Allez savoir.
Post-rock, noise.
On poursuit avec les Amazones.
Oui, les Amazones d'Afrique. À la fin du mois de janvier. Let's talk about now, about something really serious here. Afrique. We need to take it, our future, into our hands, let's say, our future. Voilà, les Amazones d'Afrique, c'est le 31 janvier et ce n'est pas que un concert, c'est également la fête de la soupe. Un événement organisé tous les ans par le Zangram. Donc qu'est-ce que c'est que la fête de la soupe? En fait, on ouvre les portes à 19h et plein d'assos seront installés ainsi que principes actifs.
Bah, tout à fait, hein? Dès qu'il y a une soupe, on est là.
Voilà. Donc il y aura une petite dizaine d'associations qui seront installées dans le club, à chacun leur table, chacun leur soupe. Voilà, chacun propose une recette différente et c'est l'occasion pour ces associations-là de se faire connaître. Voilà, c'est un petit moment convivial qu'on a en ouverture du concert des Amazones d'Afrique qui jouera à partir de 20h30 dans la grande salle.
La date, tu l'as rappelée, pardon, j'ai oublié. Oui, excuse-moi, c'est moi qui n'écoutais pas. Non, mais que je remplisse mon agenda quand même.
Vendredi 31 janvier, donc 19h, on est à la soupe et à 20h30, le concert des Amazones d'Afrique. On entre avec le ticket.
Et son bol.
Et son bol. Bon, il y en aura sur place quand même. Ouais, le bol, le mug est fourni à l'entrée. Voilà, sur présentation du billet de concert, la fête de la soupe est comprise dans le package, on va dire.
Eh bien, c'est parfait, nous y serons. Nous poursuivons avec Balik.
Spinal Tap, d'abord.
Ah, Spinal Tap, d'accord, je n'avais pas cet ordre-là. Bah, très bien.
Non, mais...
Eh bien, on écoute l'extrait parce qu'on l'aime bien. Et puis, on en parle juste après.
Ce n'est pas un concert, ici Spinal Tap, c'est un film.
Tout à fait.
Comédie musicale, culte.
Et bon,
un extrait, voilà.
Et tu joues vraiment de toutes ces guitares?
Ouais, j'en joue et je les bichonne, ouais. Tiens, celle-ci, c'est la meilleure du lot, tu vois. Pas de problème, là. C'est vraiment la meilleure. Tiens, regarde la flamme, là, sur celle-là, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est carrément géant. Incroyable. Celle-là, elle est parfaite. 1959. C'est simple. T'as qu'à écouter.
Et combien
est-ce
que...
une minute.
Enfin, c'est grosso modo.
Non, écoute ça.
Ah, j'entends rien.
Ouais, mais t'entendrais si j'en jouais, parce que elle est vraiment... connu pour son sustain. Je te jure, tu peux tenir...
Tu veux dire que tu
Tu peux aller bouffer tranquillement et... tu l'entends toujours quand tu reviens.
Oui,
tiens-moi ça.
Oui, bien sûr.
Tiens, celle-ci. Celle-ci, bien sûr, c'est une Les Paul Custom à 3 micros. Et ça, c'est mon adaptateur radio. J'accroche ça à la sangle, là, en bas. Tu vois, comme ça, là. Et quand je suis sur scène, c'est une guitare sans fil. Et je peux jouer sans me faire chier avec tout le bordel.
Tu peux courir n'importe où sur la scène avec ça.
Celle-ci aussi, elle est spéciale. Tiens, regarde, tu vois, elle a encore l'étiquette dessus. Je m'en suis jamais servi.
Tu vois, l'as acheté comme ça.
Eh, on touche pas.
Non, mais tu la touches pas. Pas l'intention de percher.
Non, non.
Je te la montrais du doigt.
Non, on la montre pas du doigt non plus.
Ah, même pas.
Non, non. Non, non, personne doit s'en servir. Jamais, tu vois. Non, non, je veux pas. Non, non. Non, bon, tu l'as acheté.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est un ampli, hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien, là.
Hein?
Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, non, regarde, là, tous.
Ouais, ah oui, oui, je vois. Et la plupart des amplis vont jusqu'à 10.
Ouais, exactement.
Et ça, ça veut dire qu'il est plus puissant, que le son est plus fort.
Bah, c'est plus fort d'un cran, hein. Non, non, c'est pas 10. Tu vois, la plupart des mecs, ils jouent toujours jusqu'à 10. Et là, t'es à 10, t'es à fond, et à fond les gamelles, partout, comme ça. T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Hein?
Ah,
tu fais rien, exactement. Ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, là, tu vois. Tu sais ce qu'on fait?
Ah, bah, on
se met
à 11.
Exactement, et plus fort d'un cran.
Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Enfin, que ce soit le maximum. Et que le son soit plus fort à 10.
Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Vous êtes bien, Spinal Tap.
Oui, Spinal Tap. Spinal
bienvenue.
Voilà. Pardon, Christelle, j'avais pas ouvert.
J'espère, Arnaud, que ces musiciens ne sont jamais venus te voir.
Oh, si, ça me ferait plaisir.
Bon, c'est complètement du second degré, ici, Spinal Tap. Il faut absolument pas le prendre au pied de la lettre. C'est une grosse blague.
C'est une parodie de documentaire d'un groupe de rock, mais filmé tellement vrai qu'on a presque, on se pose vraiment la question si c'est pas... Si c'est pas comme ça, s'il y a peut-être du vrai dedans, mais en tout cas, on se marre beaucoup et donc on suit l'histoire de ce groupe de hard rock, hein, plutôt,
ouais,
pas de métal même, qui est complètement déjanté, qui genre, leur arrive les pires conneries du monde, et on se marre bien et on est vraiment dans l'effet d'un documentaire qui est assez perturbant. Et c'est un des films cultes aujourd'hui.
Qui est resté culte alors qu'il a bientôt 40 ans. Ça n'a pas perdu avec les années.
Et comme les instruments que nous expliquait Arnaud,
c'est, hein, pareil.
C'est, voilà, c'est pareil.
Il n'y a pas la valeur qu'ils ont sur du film.
Voilà.
Donc ça, ce sera jeudi 6 février. Donc c'est un film qu'on diffuse au Cube, donc dans la petite salle, le club. En mode concert, hein, debout, avec un accès au bar.
On remplace les pop-corns par la bière.
C'est ça.
Bah, c'est parfait.
Voilà.
Wicked and weakness. You gotta see this. Yeah, yeah.
Alors, les incubateurs.
Alors,
c'est un lancement pourri, je suis d'accord. Mais
alors, les incubateurs.
Bah non, mais nous allons parler. Donc,
qu'est-ce que c'est, les incubateurs?
Que sont les incubateurs? Mais du coup, la question était alors, les incubateurs.
Est-ce que vous incubez bien, les incubateurs?
Alors, de quoi parlons-nous alors, quand on parle des incubateurs?
Alors, que ça te fait penser à quoi? Incuber?
Ah bah oui, forcément, incuber au Cube, on va parler de musique, on va parler de groupes scène locale qu'on va, j'imagine, amener.
Qu'on va accompagner, exactement.
D'un point A à un point B.
Exactement, c'est le dispositif d'accompagnement donc développé par le Tangram, donc, et notamment la salle Le Cube, donc avec le jeu de mots des incubateurs. Le principe, c'est d'accompagner un groupe pendant 6 mois pour l'aider à se structurer, à se professionnaliser, à avancer dans son projet professionnel. Et les candidatures donc sont ouvertes depuis une semaine à l'ensemble des groupes qui souhaiteraient bénéficier de cet accompagnement-là, qui prend vraiment diverses formes en fonction des besoins. C'est ça qui est important, en fonction des besoins du groupe. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui, où est-ce qu'il veut aller,
qu'est-ce qui leur manque pour passer à l'étape supérieure, hein? Est-ce que c'est un enregistrement, est-ce que c'est du live, voilà.
Donc c'est des temps de résidence, c'est des formations, c'est des enregistrements studio, c'est tout un panel qui est proposé et qui est à la carte. Et donc on a écoutez tout à l'heure Calgary a pu profiter de ce dispositif-là. Il y a plusieurs groupes locaux qui en ont profité aussi. C'est un véritable accélérateur de carrière. Et donc vous pouvez postuler si vous souhaitez participer à la sélection. Faut aller directement sur le site du Tangram, letangram.com, et puis remplir l'ensemble des informations nécessaires. Et ensuite un jury se réunit courant janvier pour choisir les groupes qui vont être accompagnés en 2020.
Voilà.
Et ben voilà, nous en savons d'un seul coup beaucoup plus. Quand on dira alors les incubateurs, nous saurons quoi répondre maintenant. Donc voilà. Avant de nous quitter sur le coup de cœur, on va faire un petit complément agenda pour la soirée de demain, parce que demain vous ne pourrez plus dire je savais pas quoi faire, finalement j'ai regardé la télé. Nous avons retenu trois dates en particulier. La première sur Évreux au bar chez Chris, c'est Caribou Bâtard qui joue à partir de 19h samedi. Forcément entrée gratuite, et puis c'est des concerts que savent bien nous proposer le bar chez Chris.
Avec l'association Venus in Fuzz.
Tout à fait, oui, avec l'association Venus in Fuzz, une asso qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre antenne un mardi sur deux. Autre...
Non, mais c'est ça, j'allais continuer. Également la scène ouverte de la MJC.
Toujours à Évreux, toujours gratuite, sur la MJC Bel et Bas, avec quatre jeunes pousses qui se produiront sur cette scène de la scène ouverte. Ça va être Jeanne et Méline, Steve Taureau, Psychoactive et Stancia. Voilà les quatre groupes programmés sur cette scène ouverte.
Et hors Évreux, un bel événement aussi à Verneuil, au Silo. Avec le Père Noël est un rocker, donc voilà, c'est tout un concept avec des concerts, mais en partenariat avec le Secours Populaire et l'Association des Moyens du Bord. En fait, on n'achète pas sa place de concert pour le Père Noël est un rocker, on offre un jouet.
Alors on peut faire les deux, hein, mais ce serait bien ballot, autant venir avec un jouet neuf.
Neuf.
On le précise tout de même, un jouet neuf. Et puis voilà, ça fait l'entrée.
Voilà, c'est ça. Et sur scène, on retrouve les petits Jésus voyageurs, voilà, qui font du rock plutôt comique.
Ouais,
comment on peut décrire
festif. Ouais, ouais. C'est parfait. En tout cas, on se marre bien et puis ça nous renvoie dans notre enfance, si on a eu une enfance dans les années 90.
On retrouve Calgary, toujours le même.
On a plus. Voilà. Il est partout,
c'est pas possible.
Comme quoi ça marche les incubateurs.
et plutôt rock, donc le groupe Fuel Humor et Resaw Post-Rock. Voilà.
Donc, voilà.
À Verneuil-sur-Avre demain soir.
Exactement.
À 20h30.
Et puis cette soirée sera diffusée également sur les ondes de Principe Actif parce que nous serons sur le Père Noël est un rocker.
Aussi, vous êtes partout. Hein.
Ouais, et puis on fera un reportage aussi sur les scènes ouvertes parce que nous suivons les scènes ouvertes depuis toujours et nous aurons une diffusion sur les vacances de fin d'année. Là. Bah, voilà la classe, quoi, en fait.
Bah hein, voilà.
Carrément. Nous arrivons sur la fin de cette émission parce qu'il est l'heure, le petit coup de cœur de la rédaction. C'est et classe on quand on dit ça, ouais. Oui.
Et on se retrouve le 17 janvier pour le prochain Plug and Play.
Tout à fait. 17 janvier, le rendez-vous est pris. Midi et demi, le vendredi, c'est le troisième du mois.
C'est ça.
Ça vous aide à retrouver vos marques. Retrouvables, bien entendu, en podcast très peu de temps après. Mmh. Et puis rediffusées de manière aléatoire. Mais alors ça, vous avez qu'à écouter. Le coup de cœur de la rédaction, c'est un coup de cœur avec le groupe Dick Flo Band et la rappeuse Aqua Naru. Je vous laisse écouter ça, c'est du bon pour vos oreilles. Laissez-vous aller.
Et on vous dit au revoir.
Eh ben, on fait ça comme ça. Oui, mais ça ne démarre pas toujours au moment où il décide. Bon, on va vous le mettre en plus joli parce que vous entendez bien que là, l'informatique n'avance pas forcément comme on veut, mais c'est pas grave. Faut pas croire qu'on va abandonner pour si peu. Je vous le remets de l'autre côté et puis on va se l'écouter bien parce que là, ça va pas. C'est pas satisfaisant comme son. On est d'accord, on a qu'un côté. C'est hors de question. Nous n'accepterons pas. Ce sont
une fin d'émission catastrophique. Là.
Non, monsieur, mais on va pas.
T'es en train de tout rater. Là.
Mais non, mais on ne va pas accepter cette qualité sonore. Il manquerait plus que ça là. Oh. Alors attendez, je retrouve mon morceau bien entendu et puis on se le remet pour de vrai bien dans nos oreilles parce que c'était pas satisfaisant comme ça. Voilà. Et en même temps, je suis en train de chercher. Hein. Ne pensez pas que je ne fais rien derrière ça. Et ben voilà, dans deux petites secondes, nous retrouvons le morceau pour de vrai en joli et une erreur s'est produite. Non mais vous y croyez à ça? Une erreur s'est produite, sûrement pas. Voilà. On envoie ce morceau, on se quitte du coup avec Aqua Noura. Le titre, c'est The Backflip. Ah, c'est mieux, hein?
Ah, bah oui.
À tout de suite.
À bientôt. Prend,
hein, bah voilà.
Rock the hot shit and start a track with get acrobatic with this rap shit. Fuck around, might even pull a backflip. Been at this since the days of John the Baptist. My water rabbit, pull a hip hop out the casket. These fascists, casket on tracks that couldn't rap. Gives my practice, naughty the head a Johnny Mathis. Dramatic to the flow, my prose a closed caption. For breakfast, my crunch be like I opposed the captain. Solo on the track, flashback, old Gladys. Night falls, I transport shore to Paris. Spitfire, fire from a bloodline to dragons. Call a cab quick, get that ass on the wagon. Fashion of the cool, sometimes get pornographic. Ride a track so hard, man, the verse of Viagra. Said the verse of Viagra. Cause it's hot, I know the shit hot. Whoa, don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Lie, word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Hey, word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage. Oh, look, so competitive. My flow ran for president for Helen Keller. Kids, I'm hip hop, Ian Sullivan. Thought traveling, walk with the moon, my Mary Magdalene. Plus, cool rhymes been canonized by the Vatican. Hood, Samaritan. Each paragraph come after them. What's happening? Since, excuse me, miss, I'm not having it. Who won challenge? This nuff came and left the battle quicker. So my game remained the same. What a balance, ship immaculate, conceived. My blood beams are more fiends. I cause dreams to rearrange the way it all seems. I rearrange the way it all seems. And y'all know that it's hot, hot, hot. Don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Hey, word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Hey, word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage. Oh, look, on the regular, I surpass law instead of the same old I dig flow beyond measures. Rhymo 9, gorgeous lady, your wrestlers back to sever the laws. The Lord try to build above the way my flow beats through streets, tours, competitors. Words, gangster, war, keep scorched the heads of the crowd. My thoughts shake, rearrange the seconds of time. That's why not a sound boy get next to her. Cool off the record, huh? Look, let me tell you, bro, my whole life a page from the Lord scrolls of Yeshua. Eat your presence up for your tongue, call up a metaphor, the best of the crew. Old school, boo, you better register, I'm back. Hey, what? Don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Hey, word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage when the beat dropped. Don't front, you know the shit hot. Wondering what's the combination to my dreadlock. Word of moms, I'm so hip hop. I was born with a limp on the stage. Oh, shit. Right now, yo, you wanna bang that, blast that, bump that, crank that, hot shit. You wanna bang that, blast that, crank that, knock that, pump that, hot, hot, hot shit. Right now, yo, you wanna bang that, blast that, pump that, crank that, that hot shit.